On est maintenant avec Mme Annie Daniel-Grenier, qui est accompagnatrice, conférencière et autrice. Bonjour, Mme Grenier.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Madame Grenier, j'ai demandé à ce qu'on vous parle aujourd'hui parce que j'ai envie de parler de télétravail pour les personnes en situation de handicap. La presse a sorti en février 2026 un dossier par rapport au télétravail et j'avais envie qu'on en parle ensemble parce que maintenant que la COVID est terminée, on sait que les entreprises veulent retourner à un mode de travail un peu plus traditionnel.
Oui, bien, en fait, je vous arrête tout de suite. La COVID n'est malheureusement pas terminée. Ça circule encore énormément. Oui. Il y a encore des gens qui sont hospitalisés et tout ça. Donc, c'est déjà effectivement un problème que le télétravail soit moins populaire, si on peut dire. Mais oui, j'étais très contente de voir le dossier dans la presse parce que ça a envoyé un message un peu différent de ce qu'on entend beaucoup, qui justement déboulonnait certains mythes ou préjugés face au télétravail en général, alors que dans tellement de situations, ça peut être la meilleure option.
Oui, vous faites bien de me reprendre sur la COVID. Par contre, comme le gros de la crise, on en parle en tout cas moins. Et puis, je sens, moi, que les entrepreneurs, les entreprises, je devrais dire, ont quand même un désir, là, c'est ça, de retourner à un travail plus traditionnel. Et vous le dites, hein, vous venez de le dire, c'est peut-être pas la solution.
Non, ben en fait, moi, je prends toujours la flexibilité dans mes interventions comme patiente partenaire ou comme conférencière sur mon expérience parce que puis c'est la même chose dans le télétravail. Autrement dit, je suis tout à fait convaincue qu'il y a des gens qui préfèrent sincèrement être en personne, pour qui ça va mieux, puis c'est parfait pour eux. Mais inversement, il y en a qui aiment un peu des deux, puis il y en a qui préfèrent ou qui n'ont pas le choix, que ce soit à distance ou pas du tout, ce qui est d'ailleurs ma situation.
Vous le dites bien, hein, ça amène une flexibilité qu'on n'avait pas avant. Puis il y a des gens qui n'ont pas d'autre choix, que ce soit pour des raisons de santé ou pour des raisons de distance ou pour autre chose. Et donc, est-ce que vous pensez que le fait de couper le télétravail, d'en faire de moins en moins, ça va nuire au personnel qui est déjà en place, puis ça va faire en sorte que des gens qui ne pourront plus donner une prestation de travail comme ils le faisaient en télétravail.
Ben c'est clair, surtout si on parle effectivement de personnes en situation de handicap, même si j'en connais qui sont dans cette situation-là puis qui n'ont pas de handicap. Mais pour ma part, c'est pour ça que je suis à mon compte, c'est pour ça que je travaillais déjà à distance là, quand je faisais de la traduction ou de la révision, parce que je peux pas dire je vais être là, même si c'est temps partiel, ma santé est trop imprévisible. J'ai plusieurs conditions qui sont multisystémiques, donc il y a toujours quelque chose. Ça joue pas bien les symptômes les uns avec les autres ou les conditions les unes avec les autres. Donc souvent, si c'était en personne, je serais obligée d'annuler parce que, bon, par exemple, j'ai besoin de prendre une médication pour contrôler les symptômes, mais je peux pas conduire. Si c'est ça, j'ai des difficultés visuelles, mais qui sont pas toujours de la même intensité, mais ça aussi, ça peut rendre les déplacements difficiles. Si, par exemple, c'est avec ma voiture, physiquement aussi, j'ai eu une blessure récemment. Il fallait absolument que j'aille la jambe surélevée. C'est assez difficile de se déplacer dans ce temps-là. Je peux même pas aller c'est pas juste que je peux pas sortir de la maison, mais la gravité était mon ennemi, finalement. Donc, toutes des choses comme ça, sans compter, bon, les risques d'infection et tout, ou quand j'en avais des infections qui me mettaient sur le carreau. Donc, tout ça, c'est des choses qui faisaient que je peux pas dire, ah, je vais être là 3 avant midi par semaine, ou je vais être là, même des fois, juste à telle rencontre, jeudi prochain, par exemple. Je peux pas le prévoir. Tandis qu'en étant en télétravail, c'est sûr qu'il y a encore des fois où je dois reporter ou ralentir certaines choses, mais en général, à la limite, je peux même faire une rencontre d'équipe alitée ou sur mon sofa inclinable, la caméra fermée, quand je peux pas être assise dans mon bureau, mais que mon cerveau fonctionne, je peux quand même le faire. Mais ce serait impossible de me déplacer dans ces situations-là.
Effectivement. Et en plus, tu sais, vous le disiez aussi, il y a beaucoup de mythes là, sur le télétravail. Et on en parlait, entre autres, dans la presse en février 2026. Est-ce que vous pouvez nous parler, justement, de ces mythes-là?
Ouais, ben je dois dire que je suis chanceuse parce que je pense que les gens comprennent que je le fais à cause de ma condition de santé. Mais j'entends souvent ce genre d'expression-là que ah oui, c'est de la paresse ou ah, c'est pour pouvoir travailler en pyjama. Puis le pire, c'est de dire que des fois, je suis obligée de travailler alité. Ça va dans un sens, dans ce sens-là, mais je pense que c'est surtout de que sinon je pourrais pas travailler du tout. On parle plus d'accommodement, mais bref, moi en fait, la plupart des personnes que je connais, que ce soit même des gens qui font seulement du bénévolat, c'est du bénévolat et non pas rémunéré. On a tendance à faire plus que moins. j'ai eu un burn-out il y a quelques années parce que j'en faisais trop. J'en faisais les soirs, j'en faisais les fins de semaine. Donc, à un moment donné, il fallait dire, OK, non, faut se mettre des limites, même si je suis à l'ordi, à la maison. Mais c'est plutôt de dire, ça me permet, on parlait de flexibilité tantôt, ben c'est ça, si un avant-midi, je peux pas du tout fonctionner, ben je reprendrai ces heures-là plus tard dans ma semaine. Ça peut être un soir, ça peut être pendant la fin de semaine, mais c'est pas, j'essaie de garder de limiter le nombre d'heures, mais bref, ce mythe-là, que c'est une question de paraisse ou de pas ou d'être agoraphobe et d'avoir peur de voir des gens, ou c'est assez, je dirais même assez insultant parce que c'est loin de la réalité aussi, là.
Et ça prend pas toujours en considération, vous l'avez dit, là, à quel point la vie peut être complexe pour certaines personnes à cause, entre autres, de limites de santé. Et pour bien d'autres raisons, là, des fois, c'est des limites, beaucoup plus des limites familiales, par exemple. Mais l'un des mythes aussi, c'est qu'on travaille moins en télétravail, on est moins performant, alors que la science montre que ce n'est pas vrai, en fait.
Non, ben comme je disais, on parlait de flexibilité. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui travaillent moins bien. Mais c'est pas automatique, c'est pas la norme. Moi, je travaille mieux comme ça justement. Je peux me concentrer. J'ai des difficultés cognitives, donc ça m'aide de pas avoir de mouvement autour de moi, de pouvoir mettre de la musique ou du son, bref, de pas entendre de bruit qui me déconcentre. Puis c'est aussi, je pense que souvent on oublie que le handicap, c'est pas seulement le fauteuil roulant. Parce que souvent on dit ben oui, mais nos lieux sont accessibles parce qu'ils ont une rampe une rampe inclinée à l'entrée. Ouais. Mais ça tient pas compte des personnes comme moi qu'en fait mes limites, oui, le fait que je suis immunocompromise, donc le risque d'infection avec une de mes conditions, un rhume peut être mortel. Donc c'est clair que ça entre en ligne de compte pour moi. Mais aussi la capacité au niveau de l'énergie est limitée. Si je passe 5 heures en déplacement dans une semaine, je pourrais pas faire autant par après parce que c'est même pas que je perds le 5 heures en déplacement, c'est que ça prend beaucoup, ça crée d'autres symptômes de me déplacer. Ça me limite autrement, finalement. Le temps, les frais, tout ça, parce que par exemple, je peux pas me stationner loin pour économiser. Donc, si je vais quelque part, il faut que je prenne le stationnement le plus proche, puis c'est souvent soit par commande ou stationnement payant.
Et encore, faut-il le trouver?
Oui, définitivement.
Oui, je comprends.
Donc, c'est plein de petites choses qu'on ne voit pas, moi, c'est de tout faire à distance. Puis ça me permet ça. Ça me permet aussi, tout simplement, c'est pas limité à ma situation de santé, même si ça en tient compte, mais le télétravail me permet de collaborer à des projets de partout au Québec avec des équipes de plusieurs endroits en même temps, mais aussi même à des projets pan-canadiens, internationaux. Je pourrais pas là avoir un meeting au CHUM puis à l'Université de Sherbrooke la même journée si je devais me déplacer c'est pour sûr. Chacun, même si c'était pas de mes capacités, ce serait juste too much, tandis que là, ça me permet de participer à beaucoup, beaucoup plus de projets comme ça.
Vous dites quelque chose qui est intéressant. En fait, évidemment, on parle de l'axe handicap parce que c'est le but de notre émission aujourd'hui.
Ben oui.
Mais c'est quelque chose qui... la flexibilité, c'est bon pour tout le monde, finalement. Ça permet à tout le monde d'être sur différents projets en même temps et de faire plus de choses lorsqu'on peut le faire à distance plutôt que d'avoir à se déplacer. Et vous l'avez dit, en plus, pour tout le monde, le déplacement, c'est énergie. Ça prend de l'énergie.
Oui, c'est clair. Puis en fait, je réalise que c'est pas juste la possibilité de collaborer, mais on parlait des mythes tantôt. Le mythe que si c'est toujours mieux en personne ou qu'on ne développe pas de connexion avec nos collègues à distance. Je pense que c'est un très bon exemple. J'ai justement quelqu'un récemment qui m'a dit que c'était comme l'exemple parfait de ça parce que je travaille avec de nombreuses équipes, avec des personnes de plusieurs établissements. Puis, je viens de lancer un projet de recherche avec des gens, justement, de plusieurs projets. Donc, je participe à créer des nouvelles connexions avec des gens que j'ai jamais vus en personne. Donc, c'est pas vrai que c'est impossible de créer des liens ou de établir des relations de confiance ou de bien collaborer sur des projets en étant à distance.
Je pense que la connexion est possible, mais que la connexion se fait autrement. Entre autres, à l'aide des nouvelles technologies, maintenant, on a des visioconférences. Et donc, je pense qu'il faut repenser notre façon de travailler pour établir des connexions, mais d'une autre façon.
Tout à fait d'accord. Puis c'est sûr que si on essaye de comparer, mais en personne aussi, il y a des désavantages.
Oui, tout à fait.
Donc c'est d'arrêter d'essayer de vouloir faire pareil, mais en ligne. C'est c'est de s'adapter puis d'utiliser les outils pour aller dans les meilleurs éléments de chacun, en fait.
Et on oublie souvent, parce que je pense que l'un des mythes les plus présents, c'est de dire que quand on est en télétravail, on perd notre temps. Parce qu'on est tout seul à la maison et on n'est pas surveillé. Mais on oublie souvent que les conversations sur le bord de la machine à café, ça peut être très long aussi quand on est en présentiel.
Oui. Oui,
donc quelqu'un qui n'est pas concentré ne sera pas plus concentré au travail, il va aller perdre son temps avec des collègues, va aller jaser avec des collègues, ce qui est normal d'ailleurs parce qu'on a tous besoin de décrocher un peu puis de reprendre notre souffle, mais en tous les cas, je pense que les conditions sont semblables, c'est-à-dire qu'on va on sera pas performant à 100% ni en télétravail ni en présentiel, parce qu'on a, t'sais, a besoin du cerveau aussi de se relaxer. Mais en tous les cas, je pense que c'est possible d'avoir un télétravail qui fonctionne.
Oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est un excellent point que en personne non plus, on n'est jamais à 100% du temps. C'est juste, je pense pas que c'est possible pour la majorité des gens. Donc, c'est beaucoup plus une question de la personnalité, je pense, et de reconnaître ses limites. Je pense pas que c'est le mode qui fait le problème quand il y en a un. Yeah.
Est-ce qu'il faut revoir aussi notre façon de percevoir le travail comme étant une idée de performance à tout prix? Est-ce que ça, c'est dépassé comme idée?
Je suis pas sûre dans quel sens vous posez la question.
Dans le sens où peut-être de revoir le travail comme étant une question de performance puis de juger les gens en fonction de leur performance en termes de quantité de travail.
Ben, c'est dur à dire, je pense que ça dépend beaucoup c'est quoi ce qu'on fait. Je trouve normal de juger si je dis que je vais faire une tâche de la faire correctement et de la faire au complet, si je suis à moins de d'imprévu, bien sûr. Mais je pense pas qu'on devrait par exemple les gens qui ont besoin de puncher en bon français.
Oui.
Je pense pas qu'ils sont nécessairement plus performants, justement. Je pense que c'est plus avantageux de regarder, par exemple, à la fin de que ce soit de la journée, de la semaine ou du trimestre, peu importe le type de travail, de voir si ce qui a été fait a été fait.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu plus même qui a été fait ou est-ce qu'il y en manque puis pourquoi? C'est plus important que de dire j'étais assise à mon bureau de telle heure à telle heure. Parce que c'est pas nécessairement mieux fait comme travail.
Est-ce qu'on est dans une société qui valorise trop la performance?
Performance en général, oui, j'ai le goût de dire oui. Qui valorise beaucoup le travail rémunéré aussi. J'ai la chance d'en faire maintenant. Je suis très contente de pouvoir le faire. Mais j'ai fait de nombreuses années sans pouvoir du tout travailler. Je faisais un peu de bénévolat ici et là. Je l'ai fait surtout pour en sensibilisation aux maladies rares, mais j'en ai fait d'autres bénévolats. Puis c'était comme je faisais rien dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est la première question qu'on pose, puis on sous-entend comme travail rémunéré, si on penche aux parents à la maison qui s'occupent des enfants, plein d'autres choses comme ça qui sont pas valorisées malheureusement, mais qui sont tout aussi importantes.
Et c'est encore très visé très orientée envers les femmes. J'ai l'impression bien que ça commence à changer, évidemment, parce qu'il y a des hommes qui sont à la maison et tout ça, mais reste qu'il y a encore une espèce d'idée comme quoi les femmes font plus de travail non rémunéré et donc participent moins à la société.
Ouais, c'est effectivement un problème. Puis ironiquement, les proches aidants sont aussi dans une situation problématique. Mon conjoint et mon proche aidant, il y a de la difficulté présentement à trouver un emploi parce qu'il y a besoin que ce soit en télétravail.
Oui, c'est
ça. Je peux pas dire je vais être là 2 jours par semaine au bureau parce que moi, j'ai besoin qu'il soit ici, même si je peux travailler beaucoup plus, mais c'est justement sa présence qui fait que je peux travailler plus moi aussi. Puis c'est pas que il prend des heures pour s'occuper de moi chaque jour. Je suis quand même présentement, mais même bon, si je peux pas bouger puis j'ai besoin d'aide, ben, ça va être pour aller aux toilettes quelques fois dans la journée ou pour m'apporter des choses. On parle même pas d'un 10 minutes total, donc probablement moins que les discussions au bord de la machine à café, comme on disait. C'est surtout qu'il faut qu'il soit là au cas où. C'est beaucoup ça dans ma situation. Évidemment, c'est pas pareil pour tout le monde, mais quand mon conjoint travaillait à l'extérieur, j'avais besoin d'aide à domicile qui était très difficile à trouver et ben malgré tout, c'était quand même limiter le nombre d'heures, donc je pouvais pas travailler autant que ce que je peux faire maintenant. Donc là, c'est souvent les femmes qui ont le rôle de proche aidante. J'ai la chance que ce soit mon conjoint, mais on fait face encore une fois à ce problème-là que le fait que ce soit presque nécessaire d'être en personne, au moins à temps partiel, ça bloque beaucoup. Puis je suis sûre qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là.
Non, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, que ce soit, comme vous le dites, pour une situation d'handicap ou pour une situation familiale ou pour toutes sortes d'autres situations, ne serait-ce que parce que l'emploi est loin de la maison.
Oui, effectivement. C'est tous des trucs qu'on oublie, puis... sans aller dans le politique, j'ai justement dans le dossier de la presse qui mentionnait que c'était beaucoup les sociétés de commerçants qui ont besoin de revitaliser les centres-villes, mais j'oublie quel chroniqueur disait ou une personne experte qui était interviewée puis qui disait que c'était pas nécessairement la responsabilité des travailleurs de revitaliser un centre-ville. Puis effectivement, justement, si les finances sont difficiles, je pense pas qu'on va aller se payer du restaurant sur l'heure du lunch si on est obligé d'aller au bureau.
Oui, de toute façon, j'ai aussi, moi, entendu parler quelqu'un qui disait, tu sais, le télétravail, ça permet aux gens de sortir, faire leurs commissions et de consommer dans les commerces à toutes les heures du jour Donc, ça permet aussi une commercialisation qui serait pas possible si les personnes étaient enfermées dans leur bureau. Donc, encore une fois, vous le dites, il y a des pour et des contre. En tous les cas, il y a toujours des solutions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Grenier. Vous êtes accompagnatrice, conférencière et autrice. On va suivre le dossier de près et de votre côté, pour avoir un peu plus d'idées sur vos projets, j'imagine que vous avez un site web.
J'en ai deux. J'ai mavidezèbre.com pour de la sensibilisation aux maladies rares et adgrenier.com pour mon travail de patiente partenaire, conférencière et autrice.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée.